avoir suivi. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique édition du mercredi 12 janvier 2022 en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Michel Joseph.
Pour commencer les titres.
Dans quelques instants, le journal de la CAN avec Emmanuel Zuntap.
Mali après la CEDEAO, la France, les États-Unis et l'Algérie ajoute à la pression sur la junte au pouvoir.
Sur place au Mali, une coalition de partis juge la junte responsable des sanctions ouest-africaines contre le pays.
Au Burkina Faso, arrestation de 8 militaires accusés de préparer un coup d'État.
Au Mozambique, des progrès ont été réalisés dans la lutte contre les violences djihadistes, selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa.
Voilà quelques-uns des titres de cette édition.
Deux pronostics déjoués lors des matchs disputés hier dans les poules E et D de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. L'Algérie, le champion en titre, et l'Égypte, sélection la plus couronnée de la CAN, n'ont pas pu remporter leur premier match. De Yaoundé, le journal de la CAN, d'Emmanuel Juntap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous. L'Algérie et l'Égypte ont ressenti les premières secousses de la CAN à des degrés divers. Secousses de faible amplitude pour l'Algérie, qui a concédé un match nul vierge face à la Sierra Leone, et secousses de forte amplitude pour l'Égypte de Mohamed Salah, défaite par un Nigeria impressionnant. Le choc du groupe D entre l'Égypte et le Nigeria s'est soldé sur une précieuse victoire des Super Eagles. Le deuxième match a mis aux prises le Soudan et la Gambie. Le point dans cette poule avec Amédine Sy depuis Bafoussam.
Le Nigeria a remporté le choc du groupe D en dominant logiquement l'Égypte sur le score 2-0 grâce à un très joli but de Samuel en première période. L'attaquant de Villarreal a offert la victoire à son équipe en inscrivant un super but ensuite à un enchaînement contrôle de la cuisse et reprise de volet en pleine lucarne. Les Super Eagles, troisième de la dernière CAN, ont maîtrisé cette rencontre de bout à bout. Ils ont même survolé les pyramides avec aisance, mettre du ballon bien plus puissant physiquement et incisif. Le Nigeria a produit la meilleure impression des prétendants au titre dans le match le plus intéressant depuis le début de la compétition, malgré une dernière demi-heure plus terne. Quant à l'Égypte, c'est une nouvelle désillusion après le cauchemar de l'élimination à domicile dès les huitièmes de finale par l'Afrique du Sud lors de la dernière édition. Sachez que l'autre match du groupe entre la Guinée-Bissau et le Soudan s'est soldé par un vierge, un match nul qui profite à l'équipe du Nigeria qui s'installe au fauteuil de leader du groupe D avec 3 points. Les Nigérians sont talonnés de très près par la Guinée-Bissau et le Soudan. L'Égypte ferme la marche avec 0 points. Amédine Sy pour la VOA Afrique.
Pour cette édition du journal de la CAN, Jules Valentin Ngoué depuis Libreville nous attend avec son coup de sifflet.
Bonjour. Au bout de la troisième sortie de cette première journée, les matchs passent et les tendances demeurent. Les scores sont étriqués. Les petits tétillent les grands et les favoris piétinent, à l'exemple de l'Algérie qui, malgré sa pléiade de vedettes, cafouille son football et bute sur une courageuse équipe de Sierra Leone, héroïque en défense. Seul le Nigeria impressionne de facilité et marque les esprits dans le classique des marathoniens de la CAN, en tournant en bourrique l'Égypte de Mohamed Salah, qui par miracle a évité la correctionnelle en première mi-temps, où le seul but du virevoltant Kelechi Iheanacho, inscrit à la 30e minute, ne traduit pas le véritable rapport de force de la soirée dans ce qui apparaît déjà comme le meilleur match depuis le début de la compétition. Ce mercredi, la revue des effectifs va s'achever sur un autre grand classique entre deux habitués aux places d'honneur, la Tunisie et le Mali, dont la parfaite opposition de style a toujours produit des étincelles. La dernière manche de cette journée permettra alors d'évaluer l'autre prétendant attendu, la Côte d'Ivoire, à qui la qualité de la production collective a souvent réussi. Tandis que la Mauritanie, la Gambie et la Guinée équatoriale devront justifier leur présence au Cameroun avec pour objectif d'atteindre l'acte 2 du tournoi. Que la fête continue.
Et la fête continue bel et bien ce mercredi avec la poule F, logée à Limbeboya. La Tunisie affronte en début d'après-midi le Mali, tandis que la Mauritanie sera opposée à la Gambie, qui participe à sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfield, dit que son équipe va jouer sans complexe.
On a prouvé les dernières trois années qu'on peut être compétitif. On a joué deux matchs nuls dans la qualification avant contre l'Algérie. On a gagné au Maroc, match amical contre la première équipe du Maroc. Gagné contre Togo, Gabon, Guinée-Conakry, Congo-Brazzaville, Angola. Soit on n'a pas peur, mais aussi la situation, le Covid peut décider beaucoup. On a un groupe fort, mais naturellement, quand il y a un des meilleurs joueurs pas disponible, ça peut être un problème. Mais pour le moment, on a fait le test hier. Tous les joueurs ici sont négatifs.
Tunisie, Mali et Mauritanie-Gambie vont se disputer sur haute sécurité à Limbé, dans la région du sud-ouest, en zone anglophone, où des séparatistes armés mènent sporadiquement des attaques contre des civils. Au stade de Japoma, à Douala, dans le groupe E, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire jouent en nocturne ce mercredi et vont sanctionner la première journée de la CAN. C'est tout pour le journal de la CAN. Amédine Si, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Emmanuel Jultap, merci. Dans le reste de l'actualité au Mali, le cadre d'échange, une coalition de partis politiques a accusé hier la junte au pouvoir d'être seule responsable des sanctions prises par la CEDEAO. Le point avec Eric Manirakidza.
Cette prise d'opposition tranche avec les nombreuses expressions d'hostilité à l'encontre de la CEDEAO et les efforts de la junte pour allier les Maliens avec un discours patriotique. Ces sanctions font suite à un manque de volonté politique des autorités à respecter leurs engagements, dit le cadre d'échange. Elles en portent la seule et l'unique responsabilité. Le cadre d'échange est opposé à la volonté des militaires de se maintenir plusieurs années au pouvoir, malgré leur engagement initial à céder la place à des civils élus sous 18 mois. La coalition qui réunit une dizaine de partis et regroupements de partis appelle les autorités à rechercher le consensus, à s'éloigner des tentations populistes et à ne pas rompre les contacts avec la CEDEAO et l'ensemble des partenaires du Mali. Dans un discours à la Nation, le colonel Assimi Goïta, qui dirige la transition, appelle à la mobilisation générale sur tout le territoire vendredi contre les sanctions imposées par la CEDEAO et l'UMOA.
Les États-Unis rejettent une transition de 5 ans au Mali et soutiennent la prise de sanctions supplémentaires par la CEDEAO. C'est ce qu'a déclaré mardi l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas Greenfield, lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Abdurrahman Dia.
La diplomate américaine déclare que Washington exhorte le gouvernement de transition à tenir son engagement envers le peuple malien de ramener son pays à la démocratie. Selon elle, une transition de 5 ans n'est pas dans leur intérêt et prolonge la douleur du peuple, réclamant des élections libres et équitables et transparentes. Nous saluons les actions fortes prises par la CEDEAO, a aussi dit Linda Thomas Greenfield, en référence aux nouvelles sanctions régionales. La France et l'Union européenne soutiennent aussi les sanctions inédites prises par les dirigeants ouest-africains contre la junte au pouvoir au Mali, a déclaré hier mardi le président Emmanuel Macron en laissant entrevoir de nouvelles sanctions européennes. Pour sa part, l'Algérie, frontalière du Mali, a mis en garde contre les conséquences de la transition longue envisagée par la junte malienne. Alger exhorte Bamako à adopter une attitude responsable et constructive, tout en plaidant pour un dialogue serein et réaliste avec la CEDEAO en vue de parvenir à un plan de sortie de crise qui tienne compte des exigences internationales et des aspirations légitimes du peuple malien, a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué.
La Russie et la Chine ont bloqué hier un texte du Conseil de sécurité de l'ONU soutenant les sanctions de la CEDEAO. Ce texte avait été proposé par la France, dont le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a accusé les mercenaires du groupe russe Wagner de soutenir la junte au pouvoir au Mali sous couvert de lutte anti-djihadiste.
Ce qui se passe au Mali est une véritable fuite en avant de la junte au pouvoir qui, au au mépris de ses engagements, souhaite confisquer le pouvoir pendant des années et priver le peuple malien de ses choix démocratiques, a ajouté M. Le Drian.
Au Burkina Faso, 8 militaires accusés d'avoir projeté de déstabiliser les institutions ont été arrêtés, a déclaré le procureur militaire de Ouagadougou. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans un communiqué, le parquet militaire affirme avoir été saisi samedi d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions de la République que projetait un groupe de militaires sur dénonciation d'un des membres. Selon des sources sécuritaires, le lieutenant-colonel Emmanuel Nzungrana fait partie des officiers arrêtés. Chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando, il était jusqu'à présent commandant du groupement des forces du secteur ouest engagé dans la lutte antiterroriste. D'après une des sources sécuritaires, des soupçons de complot en vue d'une déstabilisation du pouvoir avec des ramifications à l'étranger pesaient sur lui et sur plusieurs militaires depuis les manifestations du 27 novembre dernier. Ce jour-là, des centaines de Burkinabés sont descendus dans la rue pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à endiguer la violence djihadiste. Le ras-le-bol de la population a été exacerbé par l'attaque meurtrière d'Inata dans le nord, le 14 novembre faisant au moins 57 morts, dont 53 gendarmes. Mi-décembre, un nouveau gouvernement a été nommé, avec à sa tête un ancien fonctionnaire onusien, Lassina Zerbo, qui a appelé à la cohésion face au terrorisme.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué hier, lors d'un sommet des pays d'Afrique australe au Malawi, des progrès significatifs dans la lutte contre les violences djihadistes dans le nord-est du Mozambique depuis l'intervention de troupes régionales. La province pauvre mais riche en gaz du Cabo Delgado est en proie depuis plus de 4 ans à des attaques par des groupes armés qui ont fait allégeance au groupe État islamique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Covid-19, plus de la moitié des Européens pourraient être touchés par le variant Omicron d'ici à 2 mois, selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais ce raz de marée qui frappe aussi les États-Unis pourrait, grâce à l'immunité naturelle et la vaccination, transformer le Covid-19 en une maladie endémique avec laquelle le monde pourra vivre, ont estimé hier des responsables sanitaires américains et européens.
Le Québec va taxer ceux qui refusent la vaccination. Ils sont un fardeau pour le système de santé. Et la province canadienne s'apprête à durcir les mesures contre ceux qui refusent le vaccin en mettant en place une nouvelle taxe uniquement pour les non-vaccinés.
Forte charge symbolique, gros risque politique, le président américain Joe Biden a promis hier, sur les terres du leader assassiné du mouvement des droits civiques, Martin Luther King, de dynamiter, s'il le faut, les règles parlementaires afin de protéger l'accès au vote des Africains-Américains, un vote menacé de facto dans de nombreux États conservateurs.
En Arabie Saoudite, un centre a ouvert ses portes en plein désert pour préparer les chameaux au très prestigieux festival du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Il offre des services de soins à des dromadaires de compétition, un animal vénéré dans ce royaume pétrolier. Nani Talani.
Le centre se trouve à Rouma, à une centaine de kilomètres au nord-est du Riyad, la capitale. Il reste ouvert de décembre à janvier. Pendant leur séjour, les dromadaires ont droit au nettoyage, à la tente, au chauffage ou encore à du lait chaud pour se préparer au grand concours de beauté. L'hôtel offre aussi des nuitées qui peuvent s'élever à 100 euros par nuit. Certains propriétaires n'hésitent pas à débourser entre 40 000 et 190 000 euros pour offrir à leurs animaux le confort, les soins et un suivi médical régulier. Le concours de beauté du roi Abdelaziz repose sur des critères exigeants. La forme et la taille des lèvres du dromadaire, la longueur du cou et de la bosse. Les animaux qui remportent le prix reçoivent jusqu'à 60 millions d'euros. Appelés les vaisseaux du désert, les dromadaires qui, rappelons-le, ont une seule bosse, à la différence de leurs cousins chameaux qui ont 2 bosses, ont été longtemps utilisés pour se déplacer dans de grandes étendues désertiques et sont devenus un symbole traditionnel depuis la région du Golfe jusqu'au Maroc. L'élevage du dromadaire, réputé résistant, est une industrie de plusieurs millions de dollars. Des concours de beauté et des courses sont organisés tout au long de l'année.
Bobo avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, le CNRD rejette les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, la junte au pouvoir en Guinée a déclaré que les frontières de cette nation restent ouvertes à tous les pays frères. Voici des réactions à Conakry au micro de notre correspondant Zakaria Camara.
La Guinée se désolidarise de la CEDEAO et refuse les sanctions contre le Mali. La junte au pouvoir déclare que les frontières de la Guinée restent ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. Colonel Aminata Diallo, porte-parole des militaires au pouvoir en Guinée.
Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO en date du 9 janvier 2022 relative aux sanctions prises contre la République sœur du Mali. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste.
Ce soutien de la junte guinéenne est bien accueilli dans la communauté malienne vivant à Conakry. Mohamed Sidibé, président du Haut Conseil des Maliens de Guinée.
Ils l'ont rappelé dans leur communiqué. Le Mali et la Guinée sont deux pays frères, unis par l'histoire, la culture, la géographie, une réelle parenté. Et c'est en tenant compte de cette réalité que le gouvernement a effectivement apporté son soutien qui est largement acquis par l'ensemble des Maliens.
Cette sortie de la junte est diversement appréciée par la classe politique guinéenne. Pour certains comme Faya Milemono, présidente du Bloc libéral, les militaires ont agi au nom de l'amitié entre les deux pays.
Notre politique bilatérale avec le Mali ne devait pas déterminer l'attitude que les chefs d'État de la sous-région ont. C'est-à-dire que les devoirs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vis-à-vis de la Guinée n'ont rien à voir avec la politique que nous développons, nous, vis-à-vis, par exemple, un autre État membre.
La CEDEAO réclame des élections dans un délai court en Guinée. Ces sanctions contre le Mali devraient changer les choses en Guinée, selon Mamadou Babadiko, président de l'UFD.
La CEDEAO, en agissant ainsi, il faut dire qu'elle restaure au moins partiellement sa propre crédibilité. C'est effectivement un avertissement à la junte guinéenne. Ça ne leur donne absolument pas le droit de confisquer le pouvoir et d'en faire à leur tête.
Les militaires qui ont renversé Alpha Condé le 5 septembre 2021 ont promis de rendre le pouvoir aux civils, mais sans donner de chronogramme de la transition. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Parmi les autres réactions dans la région, au Sénégal, le principal opposant, Ousmane Sonko, a dénoncé les sanctions de la CEDEAO et de l'UOMOA contre le Mali. Sur les conséquences politiques et économiques de ces sanctions, Abdourahmane Dia a joint à Dakar l'économiste Nongo Samba Silla.
Ils ont une sorte de boomerang politique, parce que ça va créer un problème de manque de confiance entre les pays, en tout cas le Mali, la Guinée, vis-à-vis des autres pays de la CEDEAO. Et aussi un effet boomerang sur le plan économique. Le Mali est un pays enclavé qui est membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et donc la décision de la CEDEAO d'abord a été de dire que les actifs du gouvernement auprès de la Banque centrale et auprès des banques commerciales et des autres banques de la région seraient gelés. Donc un gouvernement qui n'a plus la capacité de payer, c'est un gouvernement dont l'indépendance financière est très restreinte. Et donc sa capacité à honorer ses dépenses va être très affectée. Donc quand par-dessus tout ça, on dit qu'on ferme les frontières vis-à-vis de ce pays, frontières terrestres, aériennes, etc. Donc ça pose problème pour un pays enclavé.
Parlons de cet effet boomerang, on a vu qu'au Sénégal, des voix se sont élevées pour dénoncer ces sanctions. Quel peut être le manque à gagner pour le Sénégal?
Le Sénégal, en fait, c'est le Mali, son premier partenaire à l'exportation. Et donc à peu près moins c'est 20%, 20-21% des exportations sénégalaises. Donc le Mali, à lui tout seul, pèse beaucoup plus que toute l'Union européenne.
Et sur le plan politique, pour ces, disons, ces dirigeants de la CEDEAO qui ont pris cette décision, est-ce que ça peut causer des tensions internes quand on voit un peu les réactions dans les pays?
Bon, pour l'instant, en tout cas personnellement, je n'ai pas vu des réactions du Nigeria. Et je pense que c'est la réaction qui serait la plus importante, parce que le Nigeria est le pays le plus important sur le continent, je veux dire économiquement et sur le plan démographique. Et on a l'impression que c'est juste une affaire de l'UEMOA, c'est-à-dire des pays francophones qui utilisent le français CFA en Afrique de l'Ouest. Et ces dirigeants de ces pays ne sont pas plus légitimes que d'autres. Alassane Ouattara a eu un troisième mandat qui n'est pas constitutionnel parce qu'il a fallu qu'il manipule un peu la constitution ivoirienne. Vous avez au Togo un dirigeant aussi qui est là depuis 2005. Et donc, si c'est ces dirigeants-là qui doivent sanctionner des peuples, ça pose problème. C'est-à-dire un dirigeant qui doit partir, mais qui s'accroche pour faire un troisième mandat, personne ne dit rien. Et quand il y a un coup d'état militaire, c'est la levée des boucliers. Je pense que toutes les formes de coup d'état doivent être condamnées, qu'il s'agisse de coup d'état civil ou coup d'état militaire.
L'économiste sénégalais Nongo Samba Sylla était joint à Dakar, au Sénégal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La saison sèche en République centrafricaine voit souvent une grande migration vers le sud des bergers tchadiens et soudanais à la recherche d'eau et de pâturage. Les dizaines de milliers de têtes de bétail qui traversent les terres agricoles entraînent des conflits meurtriers entre éleveurs et agriculteurs. Le reportage de Carole Valade depuis Paroua, en République centrafricaine. Le récit est signé Gini Kapumbu-Villa.
La seule source de revenus de l'éleveur Peul Mahamat Ali Garga est son bétail, mais ses bœufs sont trop maigres et perdent rapidement de la valeur. Pendant la saison sèche, de décembre à mars, il doit parcourir avec eux des centaines de kilomètres.
Aujourd'hui, nous sommes coincés. Si nous voyageons plus loin, nous allons rencontrer des rebelles et subir des extorsions. Mais si nous restons trop près des villages, les agriculteurs nous chassent pour protéger leurs terres.
Janvier Diensiona, agriculteur à Paoua, tient une tige cassée de manioc. Ses cultures ont été piétinées par le bétail. Pour lui, les éleveurs nomades sont une menace, car les animaux mangent et détruisent les récoltes.
Le bétail est bien passé par là. Vous pouvez voir les dégâts et pour réduire ces dégâts, nous essayons de récolter avant le début de la migration saisonnière. Les bergers nomades détruisent tout.
Certains agriculteurs accusent les éleveurs de soutenir les rebelles qui sont de l'ethnie Peul. D'après les agences d'aide, les bergers ont demandé l'aide du groupe rebelle, dit des 3R, après que des hommes locaux ont volé leur bétail au mois de décembre. Les rebelles ont attaqué le village et incendié des dizaines de maisons. L'Organisation internationale pour l'immigration fournit des photos montrant ce qui reste du village, des effets personnels éparpillés parmi les cendres. Le chef du bureau régional de l'OIM, Amadou Traoré, craint que le conflit entre agriculteurs et éleveurs ne s'aggrave.
Les couloirs ne sont pas, les transhumants ne sont pas respectés et donc souvent il y a des passages dans les champs des agriculteurs et ainsi de suite. Donc on assiste à des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est l'incendie des maisons, c'est les attaques, c'est les meurtres, ainsi de suite.
Bien que les rebelles se rendent du côté des bergers Peul, ces derniers se disent aussi victimes des rebelles. Kadiri Karga, de la Fédération nationale des éleveurs centrafricains, rejette toute collaboration.
Comment pouvons-nous nous associer à des groupes armés qui pillent déjà notre bétail? Les éleveurs ne veulent que la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, ils vont fuir vers le Tchad ou d'autres régions.
Dans le village de Benankouma, un groupe de médiation basé à Paoua, connu sous son acronyme CASAL, peine à faire baisser les tensions. Pour Teibo Wafio, membre du groupe, l'objectif est d'éviter les représailles entre agriculteurs et éleveurs.
la persécution est reposée beaucoup plus sur les éleveurs et ils ont peur, évidemment. Il y en a qui ont quitté même la sous-préfecture. C'est vraiment une douleur intense pour nous parce que là, le travail que nous avons fait, pour ce qui est en train de porter fruit pour nous, se retrouve maintenant, qui s'envole, ça nous fait du mal.
Malgré les affrontements, Wafio reste optimiste. Ses atouts, selon lui, les éleveurs peu l'écoutent parce qu'il est musulman et les agriculteurs lui font confiance parce qu'il est de souche locale.
Ici aux États-Unis, pour la première fois, et nous vous le disions hier, des chirurgiens ont réussi à greffer sur un patient un cœur issu d'un porc génétiquement modifié, a annoncé l'école de médecine de l'Université du Maryland. Une avancée scientifique qui, si elle réussit, pourrait venir en aide à près de 110 000 Américains actuellement en attente pour une greffe. Pour en parler, Rosine Munezero a joint le docteur Nkosi Nambita, ancien professeur assistant à Johns Hopkins.
C'est en fait ce qu'on appelle une vénogreffe, c'est-à-dire un organe provenant d'une autre espèce, transplanté dans une autre espèce, dans ce cas du porc à l'humain. Et je voudrais déjà mentionner qu'on utilise déjà le porc, les valves, pour corriger les valves cardiaques qui sont déficientes. Donc, ça, cette partie se fait déjà. Mais quand on parle d'une greffe du cœur, c'est-à-dire l'organe entier est rebranché dans un être humain. Et pour que cela puisse se faire, il faut résoudre le problème du rejet. Et c'est la première pour le cœur. Et on s'attendait à cela, que ça là se puisse se produire. Ça s'est déjà fait pour d'autres organes. Ça s'est fait notamment pour le rein, il y a peut-être 2 ans de cela. Et la patience est de mise dans ce cas précis de la greffe du cœur, parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir rejet après tout. On ne sait pas combien de temps ça va se passer. De manière générale, les greffes du cœur d'un cadavre humain à un autre humain, les résultats sont assez bons.
Qu'est-ce que cela représente justement au plan scientifique?
Sur le plan scientifique, c'est juste une progression. Ça nous a permis d'utiliser la méthode de modification génétique. Ça va permettre de comprendre les phénomènes de rejet, mais c'est plutôt sur le plan purement de la prise en charge. Parce que vous savez qu'au moins près de 100 000 personnes sont en attente d'un organe d'une forme ou d'une autre. Et la plupart meurent avant de recevoir un organe acceptable. Et cette avancée avec cette xénogreffe permettra de résoudre le problème de pénurie d'organes. Et je voudrais aussi mentionner qu'on réserve ce genre de cas d'extrême difficulté pour les gens qui n'ont la prise en charge traditionnelle n'est plus une option pour ces gens-là. C'est le dernier. D'ailleurs, l'homme de 57 ans qui vient d'être opéré à Baltimore, pour lui, le choix est simple. C'est soit la mort, soit essayer, ne serait-ce que pour quelques jours, l'avenir nous le dira, quelques semaines, quelques mois, peut-être des années, on l'espère. Voilà donc la situation.
Il y a certaines religions qui rejettent le porc. Est-ce qu'une telle opération pourrait être acceptée? Est-ce qu'elle ne poserait pas de problème avec certaines pratiques religieuses?
Ce n'est pas un phénomène nouveau non plus. Il y a certaines religions qui rejettent la transfusion sanguine, mais c'est une technique qui sauve des vies. On attend de voir ce que ça va donner.
Voilà, c'était le professeur, le docteur Nkosi Nambita, ancien professeur assistant à l'université Johns Hopkins. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia et Michel Joseph, qui étaient également à la mise en onde, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.